Michel Serrault, qu'est-ce qui vous intéresse dans les gros chiens?
J'aime bien la présence d'un gros chien. Et puis ça a l'air d'un chien. J'aime bien des bêtes qui sont pas trop trafiquées. Parce qu'il y a des chiens, on sait plus très bien ce que c'est. C'est une machine à coudre, un chien, un chapeau de... avec des fleurs.
CO2, mon amour.
Vous savez, le chien, pour moi, c'est un peu comme la cuisine. J'aime les plats nets et solides. Oui, mais nets, qui sont pas trop sophistiqués.
Avec Denis Chessou.
Le chien à un mètre. La journée, oui. Et une maîtresse le soir. Enfin,
vous voulez parler du théâtre?
Oui.
Oui, bah oui. Mais il ne connaît pas sous cet angle-là, vous voyez.
Sur France Inter.
Il m'a rarement vu en robe.
Même à la télévision.
D'ailleurs, je m'y fierais pas parce qu'il serait capable de me mordre.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 de mon amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature et que l'on va dédier, si vous le permettez, donc à Arnaud Beltrame, sa famille, aux victimes de Trèbes dans l'Aube. Alors, à la technique aujourd'hui, nous travaillons avec Grégory Vallon, avec Stéphane Bourgeat et puis Camille Blanès est notre assistante et Xavier Pestugia réalise l'émission. Alors, ça sert à quoi d'être un oiseau? J'attaque mon nid avec ma copine, mais je me pose la question. Hein, vous vouliez vous réincarner en piaf? Eh ben, réfléchissez, parce qu'elles sont plus que moyennes, les nouvelles du front. Au Moyen-Âge, vous savez, les oiseaux étaient le décor sonore de la vie. Même la nuit, où les feuilles huilées sur les vitrages attendaient avec impatience l'invention du double vitrage, eh bien, l'oiseau était la bande-son de la vie de nos ancêtres. Alors, qu'est-ce qu'on a appris une fois de plus? Effondrement de la biodiversité, rapport d'experts internationaux dans le monde et en France, moins 80% d'insectes en 30 ans, et nous, les oiseaux qui tentons de gazouiller à la campagne, bah, c'est plus des chances, c'est un institut médico-légal. Bah oui, un tiers d'oiseaux en moins en 15 ans selon le CNRS et le Muséum d'Histoire Naturelle, 5% selon Monsanto et la FNSEA. Le suivi des oiseaux communs, pourtant, est sans appel. Arracher mes haies, badigeonner la terre de tuerie pour les sols. Alors, pour la biodiversité en France, on va être très calme, parce qu'à l'exception, si vous voulez, de l'interdiction annoncée à échéance de 3 ans du glyphosate, on n'a peut-être pas vu grand-chose. Alouette, gentille alouette, bah on va me plumer tout court et poc le bec. Monde calibré, numérisé, normé, technocratisé, phytosanitérisé avec des têtes de mort sur les bidons, monde comptable et délicieusement robotisé. Et qu'est-ce que l'on va faire de tout ça? Eh oui, donc après cela, eh ben oui, qu'est-ce que l'on peut se dire? Eh ben que l'on constate quand même des choses assez incroyables. Là, pour tout vous dire, eh ben, j'avais un petit papier qui s'est merveilleusement envolé comme tous les oiseaux. Et on retrouve quoi? Eh ben, un monde désoiselé. Avec mes deux ailes, mon bec, ben, je peux toujours m'égosiller à manifester. Et il faudrait quand même être gai comme un pinson à la découverte de ce rapport alarmant sur la disparition des oiseaux en plaine agricole. Alors que les scientifiques, quand même, nous avertissent depuis très longtemps. Et le saviez-vous? Moi, le moineau, hier encore, je sautillais jusque dans vos jambes, entre les tables, aux terrasses des bistrots. Moi, le pinson, je préfère marcher dans l'herbe, du parc à l'ombre des grands arbres. Moi, le merle noir, je dispute à grands coups de bec jaune un quignon de vieux pin aux pigeons du quartier. Et accroché au rameau du platane, moi, la mésange, le zinzinabule, tout à la chasse aux chenillettes. Alors on accompagne depuis si longtemps vos déambulations en ville, à la campagne, que vous n'y prenez plus garde, les yeux rivés sur les tablettes. Mais vous avez tort, car discrètement nous faisons nos valises, notre humble existence se dilue en douceur dans un brouillard automobile. Et le printemps risque fort d'être de plus en plus silencieux. Rachel Carson, qui était biologiste américaine, dans son livre Silent Spring, en 1962, bah nous le disait déjà. 56 ans passés, nous n'avons pas appris à lire, au moins entre les lignes. Alors, demain, des oiseaux uniquement dans les zoos, dans les cages, Jurassic Park, mais un peu tard, qu'on ne nous prendra plus. Et on va débuter quand même par une nouvelle qui est tout à fait positive parce que c'est la 5e édition de la Semaine Nationale du Compostage de Proximité. Et on va rejoindre, bonjour à vous Amélie Esmangeau, parce que vous êtes alors carrément maître composteur donc à Chambéry. Et que se passe-t-il pour cette 5e édition?
Bonjour Denis. Eh bien écoutez, effectivement on débute cette 5e édition et on est ravis de voir que chaque année elle a de plus en plus de succès et elle attire de plus en plus de monde. Cette semaine, eh bien, tout simplement, c'est pour permettre de faire un gros coup de projecteur sur tout ce qui se passe au niveau du compostage de proximité. c'est-à-dire le compostage au pied de son immeuble, dans son quartier, dans son entreprise, dans les établissements scolaires, en somme, tout ce qui permet de composter nos biodéchets in situ, sans coût de transport.
Et là, c'est intéressant parce que lorsqu'on est évidemment un particulier, qu'on a la chance d'avoir une maison avec un jardin, bon, on peut s'en sortir assez facilement. Mais lorsque l'on est face à une copropriété, parfois, évidemment, ça pose des problèmes.
C'est pas toujours simple, effectivement. Quand on habite en copropriété, il faut que l'ensemble des voisins, ou en tout cas une majorité, soit motivée par le projet, puisque c'est sur eux ensuite que vont reposer le bon fonctionnement du site. Et parfois, j'ai un peu du mal à convaincre certains habitants. Ça a été le cas, par exemple, lors d'une assemblée générale des copropriétaires où on demandait l'autorisation d'implantation d'un site de compostage et où un habitant réfractaire m'a répondu qu'il en était hors de question car des rats pouvaient sauter au cou des enfants.
Mais bien sûr.
Voilà.
Rassurez-vous tout de suite, non, ce ne sera pas le cas. Alors justement, pourquoi d'abord composter ces déchets de cuisine et qu'est-ce que l'on composte ?
Alors, composter, c'est déjà devenu et ça va devenir de plus en plus une pratique courante, commune à tous. La réglementation de 2025, ramenée à 2023 par l'Union européenne, va de toute façon nous l'imposer, enfin en tout cas imposer aux collectivités de trouver, de donner aux citoyens une solution pour trier leurs biodéchets à la source. Pourquoi ? Bah parce que ces biodéchets, donc toutes nos épluchures de fruits et de légumes et tous nos déchets organiques, composent plus de 30% de notre poubelle. Donc c'est quand même dommage de brûler à l'incinérateur ou d'enfouir ces déchets qui sont composés majoritairement d'eau. Et autant les valoriser en matière qu'on peut après réutiliser, même quand on habite en ville. Ça peut servir sur des jardins partagés, sur les espaces verts des communes. Voilà, c'est des projets qui sont locaux et qui permettent à des gens de composter sur place et de valoriser de la matière. C'est quand même sympa.
Et c'est très valorisant et ça permet aussi à nos amis vers de terre et à nos amis lombriques, entre autres, parce qu'il n'y a pas qu'eux qui font le boulot, mais quand même, ils sont là, ils aèrent, ils nettoient la terre, ils l'ingurgitent et puis donc ils vous transforment ça délicieusement en terreau, d'être valorisé.
On met simplement en boîte ce que fait la nature en forêt, par exemple. C'est facile, c'est des gestes qu'il faut bien faire. On forme des référents de sites habitants bénévoles qui doivent brasser le compost régulièrement, hein, qu'on soit au pied de son immeuble, dans un quartier ou en établissement scolaire. Et si les gestes sont bien faits, si on équilibre bien le carbone et l'azote sans rentrer dans les détails trop techniques, le processus se fait très bien, il n'y a pas de mauvaise odeur et du coup c'est simple, on récolte un compost mûr de qualité qu'on peut utiliser pour rempoter ses plantes, pour son jardin et comme fertilisant naturel.
Amélie, puisqu'on en est dans les gestes pratiques, que ne faut-il pas faire, que ne faut-il pas mettre dans un compost organique ?
Alors, surtout dans les situations où on composte en collectif, on évite de mettre de la viande et du poisson, simplement parce que si il y a des apports quotidiens de plusieurs foyers sur un même site le même jour, ça peut être un peu problématique. Après, quand on est dans son jardin, il faut tout mettre, il faut tester et voir ce qui marche, ce qui marche moins. Mais globalement, tout ce qui est organique se décompose. Donc, faut pas hésiter à faire des tests.
Et beaucoup de personnes parlent aussi des agrumes. Alors, est-ce qu'on peut les mettre ou est-ce qu'il faut vraiment beaucoup les découper ?
Oui, on peut mettre les agrumes sans problème. Il y a eu un peu un mythe là-dessus. Oui. Les agrumes se décomposent très bien, parfois même plus vite que le pain. Et au passage, j'en profite pour dire que le compostage vient un peu au bout de la chaîne. Il faut aussi penser gaspillage alimentaire. Donc, c'est vrai que parfois, dans les composteurs, on retrouve des gros morceaux de pain ou même des fruits entiers à peine abîmés. Donc voilà, d'abord penser à consommer jusqu'au bout ce qu'on peut et mettre au composteur vraiment ce qui ne peut plus être consommé.
Ça représente, alors je ne sais pas combien de personnes sensibilisées, combien d'associations
Il y a environ l'année dernière 12 000 participants qui se sont rendus donc sur des sites pour les visiter, qui sont allés à des conférences, qui ont appris les bons gestes, qui ont vu comment ça se passait. Et là, on est en train de passer pour cette édition à venir la barre des 700 animations sur tout le territoire. Donc le grand public peut consulter la page internet du site et trouver l'animation la plus proche de chez lui sans problème.
Écoutez, soleil et printemps sur vous. À très bientôt Amélie, merci à vous.
Eh bien merci et puis bonne journée.
Et vive les lombriques, voilà. Et donc à suivre, alors là, un reportage sur le terrain. On va partir en Bretagne, dans le Finistère, pour découvrir cette rivière qui s'appelle l'Élorne, qui va jusqu'à Brest, qui arrose d'eau potable donc Brest. Comment on s'y prend pour essayer de garder cette qualité au mieux ? Eh bien, réponse dans quelques instants sur le terrain.
There's plants and trees. Make a closer inspection. The skin is just a road knot. The view is very nice. Imagine looking at a picture. Imagine driving in a car. Imagine rolling down the window. Imagine opening the door.
On va aller donc dans un pays où il y a encore des oiseaux, donc on va partir en Bretagne dans quelques instants. Vous savez, c'était la Journée mondiale de l'eau et aussi le Conseil mondial de l'eau pour faire progresser ce qu'on appelle les objectifs du développement durable et entre autres l'assainissement et l'eau potable. Donc, bref, la vie de chacun d'entre nous. Mais ça se passe aussi donc localement. Donc ça se passe sur les petites et les grandes rivières. Donc qu'est-ce que l'on peut faire? On va découvrir le travail d'un syndicat de bassin. On va partir sur les Lornes.
La balade de Denis Chessou.
Ah, l'air est vif, le temps est presque beau, on a quand même du bleu, on va dire, au milieu du gris, dans ces monts d'arrêt. Les ajoncs sont encore un petit peu timides. Bonjour Philippe Mascolier.
Bonjour Denis.
Nous sommes chez vous aux sources de l'Élorne. Ça fait partie de ces fleuves côtiers, mais là on est véritablement à la source, où il y a un lien d'ailleurs très très direct entre l'amont et l'aval ici, avec l'Élorne.
L'Élorne, effectivement, est un petit fleuve côtier d'une quarantaine de kilomètres de long qui prend ses sources dans les monts d'Arrée. Donc là, on est aux sources, hein, dans ce qu'on appelle aussi le château d'eau de la Bretagne, donc dans des zones où on voit l'eau suinter tout l'hiver de partout pour alimenter nos petites rivières, nos petits fleuves côtiers, comme on en a énormément en Bretagne.
On se retourne et on a ce lieu incroyable qui est le Yonnelaise, qui est une terre alors là de magie, de superstition, donc qui est une très très grande zone humide qui est superbe. On a la petite chapelle Saint-Michel qui est pas loin, le roc Trévézal qui est juste à côté. Comment on appelle ce lieu d'ailleurs?
Alors le Yonnelaise, on appelle aussi la porte des enfers.
Alors évidemment, si on a un peu mauvais esprit sur Lyonnaise, vous avez une des premières centrales nucléaires de France qui est Brennilis. Et qu'on s'amuse à démanteler déjà depuis un paquet d'années, voilà. Et on l'amuse là parce qu'il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop de contestation à l'époque. On va parler d'autre chose. On est donc sur ce très beau massif armoricain avec des paysages, vous savez, qui sont proches de, on va dire, du pays de Galles, de l'Irlande, avec des rocs, des dents de schiste, de quartzite très très dur, comme ça, qui émergent du plateau érodé. Alors c'est un pays de vent qui a ses cheveux de genêt, mais en bataille presque en permanence. Et donc, toutes les eaux du ciel de Bretagne s'y donne rendez-vous et ce mont d'Arrée, il redistribue cette provende aux quatre points cardinaux. Alors vous avez de nombreux fleuves, côtiers qui partent de là, du mont d'Arrée, et en particulier donc cette Élorne qui nous intéresse. Le roc Trévézel n'est pas loin, ça c'est la star locale. Au pied du Tuchen Cador, vous avez les sources de l'Élorne. Alors c'est vrai qu'on a une altitude d'aller 300-400 mètres maximum, même pas 400 mètres d'ailleurs. Donc c'est une faible altitude et pourtant c'est rugueux, c'est de la montagne. Les gens parlent de la montagne là-bas. Alors on va découvrir aussi quand même ce qui se passe sur ce bassin, parce qu'il s'agit
avec l'agriculture aussi qui est là, d'essayer de garder l'eau la plus propre possible. Donc on va faire cette balade avec Philippe Masquelier, qui est le directeur du syndicat du bassin de l'Élorne, et puis différentes personnes qu'on va rencontrer au fur et à mesure. Et je tenais à citer mes amis du festival de radio de Brest, ce merveilleux festival qui s'appelle Longueur d'onde, parce que donc j'avais eu la chance d'y participer. Et donc à cette occasion, j'avais pris la bicyclette et on est remonté sur l'Élorne.
Le pays du Léon est juste de l'autre côté. En fait, c'est l'Élorne qui fait la limite, qui fait la séparation entre la Cornouaille et le Léon. Une séparation pas seulement géographique, mais c'est aussi une séparation géologique. L'Élorne court sur une faille qui sépare une géologie du Nord Finistère qui est plutôt du granit et du gneiss, avec des sols assez profonds et très drainants, avec beaucoup d'eau. Et au sud, des schistes, alors beaucoup plus imperméables, sur lesquels on a des rivières qui ont plutôt des caractéristiques de rivières courantes, mais avec très peu d'eau en été.
Alors, ça veut dire qu'il y a aussi une conséquence en ce qui concerne donc les fameux nitrates, parce qu'on est quand même sur une zone agricole ici. Comment ça se traduit ?
Dans les terres du Léon, on a des nappes phréatiques qui sont beaucoup plus profondes.
Donc qui vont piéger, qui vont retenir les nitrates.
Qui vont retenir les nitrates. Donc on a des rivières qui sortent avec des taux de nitrates qui sont assez importants sur les affluents de rive droite de l'Élorne. Par contre, les affluents de rive gauche de l'Élorne sont moins chargés en nitrates, sont sur des schistes, donc avec des nappes beaucoup moins importantes, des taux de nitrates moins importants également.
On arrive maintenant, je crois, sur une moyenne bretonne à 32 ou 33 mg par litre de nitrate. Donc ça a beaucoup baissé.
Petit à petit, on voit que les résultats apparaissent intéressants. On voit que sur l'Élorne, on est arrivé jusqu'à des moyennes de 40 mg de nitrate à la fin des années 90. Et puis, petit à petit, les taux ont commencé à stabiliser, puis descendre. Aujourd'hui, la moyenne sur l'Élorne est plutôt autour de 24-25 mg, on a des objectifs à autour de 22 mg pour les années 2022, donc on a bon espoir d'atteindre ces objectifs, et c'est des objectifs qui paraissent atteignables à tous.
Votre travail au syndicat de bassin dans Côte de l'Élorne, c'est bien sûr d'avoir la meilleure qualité d'eau possible. Quelles sont les missions que vous effectuez ?
Alors, le syndicat a été créé dans les années 70 pour construire un barrage, qui est le barrage du Drennec. Et ces missions ont évolué à partir des années 90 sur les problématiques liées à la qualité de l'eau. La qualité de l'eau qui se dégradait en Bretagne, pour laquelle il a fallu travailler, notamment pour essayer de faire en sorte de garder la capacité de produire de l'eau potable, puisqu'en Bretagne, on produit beaucoup d'eau potable à partir des rivières. Les rivières sur lesquelles on avait des taux de nitrate qui augmentaient très régulièrement.
On travaillait principalement, on va dire, avec les agriculteurs, mais pas que, parce qu'il y a aussi l'industrie, il y a aussi les collectivités et les particuliers. Mais quand même, le grand pourvoyeur de nitrate, c'est quand même l'agriculture.
Je crois que chacun doit faire un effort pour ensemble arriver à reconquérir la qualité des eaux, parce que la qualité des eaux de nos rivières, c'est produire de l'eau potable qui soit de bonne qualité, mais c'est aussi la qualité de notre littoral et la qualité des eaux marines qui dépendent fortement de la qualité des eaux de nos rivières, puisqu'on a en Bretagne en tout cas des fleuves côtiers qui sont très courts, qui se jettent dans des rias, dans des estuaires, et pour nous dans la rade de Brest.
Alors on est sur une beauté là des lieux. On est sur une lande là, c'est ça ?
Ah oui, on est sur les landes des Monts d'Arrée, c'est vraiment un paysage typique des Monts d'Arrée, avec des couleurs qui sont particulièrement chouettes, notamment en hiver. Ouais. Ces tons d'ocre, de marron, de rouge, c'est assez sympa.
Et alors, il y a un animal qui nous écoute peut-être, qui est très intéressé par les Lornes, hein, vraiment, c'est le saumon. Parce qu'on est sur une rivière de première catégorie, ce qui veut dire première catégorie, c'est quand même une très bonne qualité des eaux. Et ce saumon, bah, il est chez lui.
On a pas mal de saumons à remonter sur les Lornes et avec des pêcheurs qui sont passionnés, et notamment passionnés par la pêche au saumon et notamment la pêche à la mouche.
Alors, pas très loin d'ici, il y a une zone de comptage aussi des migrateurs.
C'est là une trappe de comptage en fait, qui est sur un lieu-dit qui s'appelle Caramon. En fait, on oblige les poissons à passer devant une caméra. Et cette caméra va compter les poissons qui passent, les poissons migrateurs et les non-migrateurs d'ailleurs aussi. Ça nous permet de compter le nombre de saumons, d'aloses, de lamproies ou de truites de mer qui remontent les Lornes. Et c'est vrai que d'une année à l'autre, on peut avoir entre 500 et 1300 saumons à remonter sur les Lornes, ce qui fait de l'Élorne une très bonne rivière à saumons, y compris en Bretagne.
Oh, le joli champ, là, dites-donc. Alors, Philippe Masquelier, qui allons-nous rejoindre?
Donc là, nous allons rejoindre Gwenola Lallemaine, qui est la technicienne de rivière du syndicat de bassin de l'Élorne, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'on a fait ici, sur le site du Pinguilly.
Et donc, on est sur un affluent?
Un affluent de l'Élorne, un petit affluent de l'Élorne, dont on a renaturé une partie du cours qui passait avant dans le chenal d'un moulin, entièrement.
Bonjour, Gwenola.
Bonjour.
Alors, où sommes-nous, Gwenola, ici?
Alors ici, nous sommes sur le site de Pinguilly, à Baudilis, où on a remis le cours d'eau dans son lit d'origine.
C'est-à-dire quand on remet un cours d'eau dans son lit, comment on fait?
Eh bien, on a rouvert un endroit où il y avait un étang. On a vidé l'étang en question et on a recréé le cours d'eau. Puisqu'avant, il passait par le bief du moulin qui était juste à côté.
Alors vous avez reméandré, vous avez
Oui, fait... on a reméandré, on a refait des virages dans le cours d'eau, si on peut dire.
Oui, mais c'est ça.
Ouais. Et en dessous, enfin la partie étang et ensuite la partie un peu plus bas, il n'y avait plus de cours d'eau, donc on l'a complètement recréé, recreusé. Alors le but, c'est qu'au niveau du moulin, il y avait deux chutes d'eau donc qui empêchaient les poissons de circuler dans le cours d'eau, entre autres, et puis même d'autres petites faunes sauvages. Et aussi les sédiments de descendre logiquement vers l'aval des cours d'eau. Du coup, comme on a fait ces travaux-là, ça a permis de justement, les poissons peuvent aller de l'amont à l'aval, ils peuvent circuler, il n'y a plus d'obstacles.
Il y a une meilleure qualité d'eau?
Oh, ça joue un petit peu sur la qualité de l'eau, effectivement, puisque là où il y avait l'étang, c'était de l'eau...
Ça stagnait, quoi.
Ça stagnait, ce qui était plus chaude, dans lesquelles les poissons des rivières, qui sont les truites, les saumons... déjà, des saumons, il n'y en avait pas, parce qu'ils pouvaient pas remonter, il y avait un peu de truites. Et bien, dans lesquelles, ils ne pouvaient pas être bien, puisque l'eau était trop chaude, et l'étang n'était pas bon pour eux, quoi, on va dire.
C'est une bonne invention, les bottes, hein, quand même.
Oui.
Ça. Ah, monsieur Botte, je remercie. Ah, on arrive sur quoi, là? Qu'est-ce que c'est, ça?
Alors là-bas, c'est un répartiteur des débits, donc qui permet à la fois d'avoir de l'eau justement dans le bief, qui est toujours de l'eau pour le moulin, où il pourrait à terme peut-être mettre une centrale hydroélectrique, et puis avoir toujours de l'eau, évidemment, plus dans le cours d'eau que dans le bief du moulin, surtout quand il n'y a pas beaucoup d'eau dans la rivière. Bon, c'est pas le cas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a à peu près l'équilibre entre les deux, mais vraiment en été, quand il n'y a pas beaucoup d'eau dans la rivière, on va faire en sorte qu'il y ait plus d'eau dans le... privilégier le cours d'eau pour que la faune et la flore qui y vivent aussi aient toujours assez d'eau pour y vivre justement, et puis le bief du moulin pourrait être à sec par moment.
Gwenola, donc pour retrouver on va dire ce lit originel, donc vous avez passé bien sûr un coup de tractopelle pour reméandrer les choses, et puis souvent pour qu'il y ait de la vie il faut qu'il y ait un substrat, alors le substrat ça peut être le gravier quoi.
Quand on a vidé l'étang surtout, et même quand on a creusé un peu plus loin, il y a des endroits où on a déjà retrouvé les graviers d'origine du fond du cours d'eau. Quand on a vidé l'étang, d'ailleurs, le cours d'eau s'est retracé quasiment comme on l'avait prévu de le tracer. Donc ça a été vraiment déjà magnifique, ça nous a montré qu'on était plutôt bon. Et ensuite, des cailloux sont venus petit à petit de l'amont pour finir le substrat qu'on avait fait.
Mais ça s'est fait naturellement.
Dans un mois, on avait déjà un substrat, toute la vase était partie, la terre.
Ouais.
Et c'est vraiment venu très très vite. Et puis dans les mois qui ont suivi, des plantes aquatiques sont arrivées. Puis la vie s'est refaite assez rapidement aussi dans le ruisseau.
Ah, c'est pas mal parce qu'en fait, vous refaites le lit des rivières, vous allez recoucher les rivières.
Voilà. Ah, on essaye de les remettre comme ils étaient à l'origine parce que c'est vrai que les Lornes et sûrement plein d'autres bassins versants, il y avait beaucoup de moulins. Et du coup, la force du suose, le fait de ne plus entretenir les moulins, les cours d'eau, souvent les vannages des moulins sont parés, ont sauté et du coup, toute l'eau va vers les moulins. Et puis la continuité du cours d'eau ne va plus bien, quoi, du coup.
On est sur un bien commun.
On est tout à fait sur un bien commun, l'eau est un bien commun et notre but c'est de faire en sorte que sa qualité s'améliore et puis qu'on ait de moins en moins de mal à la potabiliser et puis qu'on ait toujours dans nos rivières une vie sauvage de qualité.
Au fil de l'eau, donc sur les Lornes du Mont d'Arrêt jusqu'à Brest, avec 300 000 personnes quand même qui sont alimentées par cette Élorne. Et on va poursuivre ce voyage dans quelques instants. Et là, on va être aussi à la rencontre des agriculteurs.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
La journée entière ici, sur le mur de pierre, devant la baie des fourmis, regarder la mer, ne pas avoir d'autre envie que regarder la mer. pierre, là où le soleil s'est mis. Restez, restez, tout seul, solitaire, devant la baie des fourmis. Regardez la mer, restez la journée entière ici, sur le mur de pierre, devant la baie des fourmis. Regardez la mer, ne pas avoir d'autre envie que regarder la mer. Laissez, laissez le temps s'en aller là, laissez aller les voiles rouges sur la mer qui bouge. Laissez sur l'eau transparente glisser les soucis de la vie, glisser les jolies sirènes aussi dans la baie des fourmis.
Regardez la mer. Alors, c'est pas la baie des fourmis de Souchon et Voulzy. Nous, on regarde plutôt la rade de Brest. On la voit pas forcément des monts d'Arrée, mais après, en descendant, donc, on la voit, on l'appréhende. Et donc, on va poursuivre ce voyage avec ce syndicat, donc, de bassin de l'Élorne, qui est budgétisé, par le conseil régional d'un côté, le conseil départemental, l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui est quand même le bras financier de l'État et qui, là-dessus, fait donc un sacré boulot. Et donc, Philippe Masculier, toujours notre directeur. Et là, on s'intéresse à l'agriculture.
Alors là, nous sommes sur les hauteurs de l'Élorne. On est à Comana, donc une commune qui est au pied des monts d'Arrée. Sébastien Perron, qui va arriver bientôt, oui. Donc qui est agriculteur. Et c'est Claire Amil, qui est une technicienne agricole et qui s'occupe aussi du programme Brest Bocage, qui va vous accompagner pour le recevoir.
Bon, alors là, on a les pieds dans la boue et on a nos vaches. Bonjour Sébastien.
Salut.
Ça va?
Oui. Et toi?
Ça va.
Allez-vous bien Sébastien?
Ça va.
Denis, bah, ravi.
Enchanté.
Vous avez combien de bêtes là, ici?
Ça fait entre 150 et 200 bêtes, du plus petit veau au plus vieux taureau.
Alors on fait à la fois du lait, et de l'engraissement et de la viande, ouais, c'est ça?
Non, donc. Pas de lait, que de la viande.
Ah d'accord.
Ouais. J'ai 60 meilleures vaches allaitantes, des blondes d'Aquitaine. Donc je récupère les petits veaux et puis je les engraisse et je les vends.
Alors ce qui est tout à fait intéressant aussi, c'est le travail que vous effectuez, vous, sur l'eau, parce que vous faites partie de ces jeunes éleveurs et agriculteurs qui avaient bien tout à fait conscience de la qualité de l'eau. Vous avez votre Élorne qui est pas loin, nos monts d'Arrée qui sont là, donc on est pratiquement à la source. Donc comment on fait évoluer ces pratiques pour arriver à la fois à économiquement tenir le coup et puis de faire attention à l'eau?
Ah, le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps. Bah, je m'étais posé la question, pourquoi laisser mes bêtes aller boire à la rivière? Après, justement, on m'a proposé une solution pour empêcher au moins sur une partie de l'exploitation de le faire.
Parce qu'on va rappeler qu'effectivement, des vaches qui boivent à la rivière, elles vont piétiner, il va y avoir une érosion, il va y avoir aussi évidemment des déjections.
Ouais, c'est surtout au niveau des berges que ça m'avait choqué au départ de voir un troupeau de 30 bêtes sur les berges. Ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts et très rapidement en fait.
Claire, donc là, non loin de cette Élorne, donc pour éviter que les vaches de Sébastien boivent directement dans cette rivière, qu'est-ce qu'on met en place?
On réfléchit un peu avec l'exploitant à ses pratiques, donc à quel type de vache il va amener dans la parcelle concernée. On regarde donc si c'est un petit lot en nombre,
ouais. On
va pouvoir mettre ce qu'on appelle des pompes de prairie. Donc on va fermer l'accès au cours d'eau. On met une pompe, donc il y a une petite crépine qui est dans le cours d'eau, qui relie à une pompe.
Et après on remonte de l'eau, quoi.
Et on remonte de l'eau, mais alors c'est la vache elle-même qui va remonter l'eau avec son museau. Donc elles s'aveuvent une par une. Donc c'est pour ça qu'il faut des petits lots de vaches.
Oui.
Quand là c'est le troupeau des mères avec la suite, on est plutôt sur des gros besoins d'eau, parce qu'une vache on a à peu près 50 de litres d'eau par jour. Là on passe sur du système de bac, donc c'est-à-dire qu'on va avoir un bac de 500-900 litres qu'on va alimenter en système gravitaire. C'est-à-dire que le tuyau d'eau va être beaucoup plus en amont dans la rivière, ouais, par gravité,
par la pente, quoi.
Par la pente, ouais. Voilà, va remplir notre bac d'eau.
Alors, donc l'idée de départ, c'était quand même de sauvegarder la rivière. Quoi.
Sauvegarder la rivière, et puis il y a des problématiques d'érosion, des problématiques de pollution aussi avec les excréments des vaches. C'est un confort aussi pour l'exploitant, parce qu'on s'aperçoit que le cours d'eau, il gagne dans la prairie, et puis ça devient de plus en plus compliqué aussi de gérer sa prairie quand on a le cours d'eau qui prend de plus en plus de place sur la prairie. Donc c'est gagnant-gagnant. Alors ça demande un petit peu de passer un peu plus voir ses vaches, de contrôler si le système fonctionne bien.
Alors il y a aussi quand même, parce que vous donnez à manger aux bêtes, vous avez réparti les choses différemment ?
Ici c'est une exploitation, il y a 80 hectares en tout. J'ai en gros 60 hectares de prairies et 20 hectares de culture. Et tout est destiné en fait à la consommation pour mes animaux.
Oui.
J'ai un tout petit peu de céréales qui sont pour les animaux, un peu de maïs aussi pour les animaux, et le reste tout en prairie.
Alors vous avez privilégié la prairie ?
On est quand même bien arrosé, on a avec des onagres à côté, c'est pas pour rien, c'est que c'était bien arrosé. Et donc on est vraiment un système où l'herbe elle a toute sa place, puisque les céréales, on n'a pas le climat pour. Ça se fait de soi-même. Au bout d'un moment, au début j'avais 20 hectares de céréales, et finalement tous les ans on diminue, et on se rend compte que la céréale c'est vraiment anecdotique ici.
Votre travail donc c'est d'aider, de faire évoluer en fonction des demandes. En fonction, bien sûr, du terrain, de chacun. C'est-à-dire que vous n'avez pas des solutions forcément clés en main pour tout le monde qui sont les mêmes.
Ah non, ça serait magique, ça. Il faut que l'exploitant s'adapte aussi au territoire sur lequel il s'installe. On a des grosses contraintes de foncier qui sont, je pense, l'enjeu majeur quand on parle d'herbe. Pour faire de l'herbe, il faut qu'on ait un foncier cohérent avec sa ferme. Donc si on veut faire pâturer des vaches, il faut que l'herbe soit à côté de l'étable. Donc ça déjà c'est une problématique, on a pas mal d'éleveurs qui comprennent bien qu'une vache ça mange de l'herbe, mais qui n'ont pas forcément le foncier pour pouvoir faire pâturer plus les vaches. Toutes ces problématiques-là, il faut vraiment le juger avec l'exploitant qu'est-ce qu'il est prêt à faire et quelles sont un peu ses marges de manœuvre aussi sur son territoire.
Sébastien Piron, là, on est sur du costaud, on est sur du talus. À quoi il sert ce talus ? C'est vous qui l'avez fait ?
Non, c'est pas moi, c'est une action menée par le syndicat de bassin. Mais... Enfin, on a fait des haies bocagères, 1,4 km qu'on a planté. En fait, c'est parti d'une réflexion que je m'étais faite il y a quelques années. Un jour de grand vent et de pluie, j'avais un troupeau de 30 vaches caché derrière une touffe de 4 pauvres châtaigniers. Donc, ce qui donne, comme on peut voir là, une bonne mare de boue. Puis c'est en voyant quelques agriculteurs de pas loin là, qui avaient commencé à mettre des haies comme ça, j'ai dit tiens, pourquoi pas. Comme par hasard, y a un programme qui a été lancé. J'ai plongé, 1,4 km de haies.
Et là, on a le pied sur le talus. Alors, il fait à peu près un bon mètre de talus. Donc, à quoi servent ces talus ?
C'est plutôt c'est de l'aménagement autour de l'exploitation. Et ces talus avaient fonction d'éviter, si jamais il y avait une grosse fuite de déjection, que ça puisse faire un effet tampon.
Donc ça va piéger le phosphate d'un côté.
Ouais. Donc autour de la ferme, c'était plutôt pour ça. Et après, on a réaménagé un talus sur une grande parcelle qui était en pente. Là. En fait, c'est pour éviter le ruissellement de l'eau sur des longues parcelles avec beaucoup de pentes.
Ce qui fait que là-dessus, Claire, on garde la terre, quoi. On est sûr qu'elle ne va pas partir à la rivière.
Nous, l'intérêt, c'est vraiment de garder la terre et les polluants qui sont associés à cette terre-là.
Voilà.
On parle de produits chimiques, on peut parler d'azote, de phosphore, tous les éléments qui peuvent être mis sur des parcelles agricoles. Et puis en plus, ici, au pied des monts d'Arrée, c'est fait partie du paysage, le bocage, c'est un peu le trait particulier de ce territoire.
Ah, c'est très culturel, ça. Qu'est-ce que ça vous apporte, je dirais, tout ça ? Parce que je sais bien que pour un certain nombre encore d'agriculteurs, d'éleveurs, une notion environnementale, c'est souvent une source d'emmerdement, mais vous avez réfléchi à ça, et en fait, vous n'êtes pas plus malheureux, au contraire.
Non, mais en fait, je pense que j'ai la chance d'avoir été travailler ailleurs que dans la culture avant, ce qui fait que j'essaye de voir un peu plus loin toujours, et... Pour les haies, par exemple, je dis, dans 10 ans, je sais que mes vaches, elles seront à l'abri, que je serai tranquille de ce côté-là. Les talus, c'est pareil. J'ai des belles parcelles, elles sont bien carrées. L'eau va être freinée, elle sera jamais arrêtée, ça c'est sûr. En fait, la production de la vache allaitante, on est obligé de se projeter très très loin tout le temps, parce que c'est très long à retrouver de la rentabilité. Donc on essaie toujours d'anticiper les choses, en fait.
Ouais.
Et moi, je pars du principe aussi que tout ce qui est encouragé aujourd'hui sera obligatoire demain.
Vous n'êtes pas encore à passer au bio, mais peu importe, ça vous fait quand même évoluer vos pratiques.
Je fais évoluer mes pratiques, mais en bio, ça m'étonnerait que j'y passe un jour, parce que en fait, je suis quelqu'un qui a besoin des solutions. Moi, quand j'ai un problème, il me faut une solution, ouais. Et assez rapidement. On a déjà une production, la production de vaches allaitantes, c'est très long à mettre en place, très long à retrouver que ça fonctionne et qu'on puisse gagner sa vie. Et déjà, donc, c'est une production très lente, donc moi, il me faut des solutions très rapidement. Donc, c'est pour ça que le bio, moi, ça va encore m'apporter des contraintes et j'en ai pas besoin. Moi, je veux que ça fonctionne, que j'ai un problème, il me faut une solution assez rapidement.
Ça, vous n'êtes pas non plus, évidemment, écolo, mais vous n'êtes pas non plus intensif. Vous.
Non, voilà, mais j'aime bien les choses qui fonctionnent. Il faut que je trouve une logique dans tout ce que je fais. Donc, pour l'instant, les abreuvements, j'ai trouvé une logique. C'est logique aussi. Je suis quelqu'un de logique, il faut que ça marche.
Bon, il ne va pas se convertir tout de suite, on l'a compris, mais en tout cas, il y a ce soin donc, apporté à l'eau, donc, avec l'aide des uns et des autres, on l'a bien compris. Alors restez avec nous, parce que je vous emmène après dans une tourbière très très belle, là aussi, formidable pourvoyeuse d'eau.
Assassin de la nuit, je t'espionne, tu me soupçonnes, je t'alarme, tu me cambrioles, je te vise, tu me cibles, je me rends, tu me descends. Assassin de la nuit, assassin de la nuit, assassin de la nuit. Assassin de la nuit, oh, oh. Je te hausse, tu me noies, je te coule, tu me bois. Je te sphinx, tu me félines. Je te démon, tu me divines. Oh, tue-moi encore. Oh, tu me tues. Assassin de la nuit. Assassin de la nuit. Assassin de la nuit. Assassin de la nuit.
Arthur H sur France Inter dans CO2, mon amour, toujours sur les Lornes, donc en Bretagne, dans le Finistère, pour ce reportage tout en son. Alors, on est dans une zone quand même d'excédent structurel, comme on dit, autrement dit, il y a trop de nitrates. Vous avez quand même aussi les taux de pesticides, enfin, je veux dire, tout n'est pas nickel, mais simplement, ce qui est intéressant, c'est de voir le travail des uns et des autres. Alors, il y a ce syndicat de bassin, mais je tiens à rendre aussi, d'une manière générale, en France, et là en particulier, aux pêcheurs. La PPMA de les Lornes, avec une chaîne de bénévoles qui va à la fois découvrir des pollutions, qui fait de la veille environnementale, qui a des chantiers donc, d'entretien avec des bénévoles. Bravo, parce qu'ils font aussi un sacré travail. Allez, on continue, toujours sur les Lornes, Philippe Masquelier. Alors, on se trouve sur un barrage, là, Philippe Masquelier.
Alors, c'est le barrage du Drenec. C'est un barrage qu'on appelle de soutien d'étiage, c'est-à-dire qu'on va stocker l'eau en hiver pour la relâcher plutôt à partir de juillet, août, septembre, quand il n'y a plus assez d'eau dans les rivières. Il a pour but de conserver toujours assez d'eau dans la rivière pour qu'on puisse continuer à alimenter les populations en eau potable. On a deux principales ressources d'eau potable qui alimentent près de 300 000 personnes en eau sur les Lornes. Donc c'est important qu'on ait toujours assez d'eau, à la fois pour alimenter les populations et pour que la vie puisse continuer de façon satisfaisante dans la rivière.
Et donc nos amis brestois et de la métropole vont pouvoir se doucher, vont pouvoir avoir de l'eau grâce, entre autres,
Entre autres au barrage du Drenec. C'est vrai qu'à des périodes comme les étés 2003, 2011 ou même début 2017, où certains secteurs en Bretagne et en France avaient des pénuries d'eau, on a beaucoup moins souffert ici parce qu'on avait le soutien des étiages et le soutien des débits des rivières par ce barrage du Drenec. Oui, c'est un ouvrage important.
Alors, c'est toujours pour la grosse chaleur. Où sommes-nous là ? Tourbière du Mougeot. Et puis je vais rejoindre Stéphanie Isoard qui est sur son terrain, qui s'occupe en fait de, on va dire, de Natura 2000, c'est ça ?
C'est ça, je m'occupe de la gestion des milieux naturels et également du site Natura 2000 de la rivière Elorne.
Ouais, on arrive donc sur cette belle tourbière, qu'est-ce que c'est beau ! Donc là on est sur un affluent de l'Elorne. Et alors on voit quoi ? Des molinis, on voit des... Alors là, il n'y a peut-être pas de bêtes. Alors si de temps en temps, il doit peut-être y en avoir, mais alors il leur faut une carcasse un peu légère, hein, parce que pour pas qu'elle s'enfonce de trop.
Bah, la caractéristique d'une tourbière, c'est que c'est un milieu qui est gorgé d'eau en permanence.
Ouais.
Donc c'est un milieu qui est très dur pour les espèces. Mais dans un sens, vu qu'il est très dur pour les espèces, eh ben, ça les pousse à développer des caractéristiques bien spécifiques. Par exemple, il n'y a pas n'importe quelle plante qui va pousser dans cette tourbière. Ça va vraiment être des plantes qu'on ne va retrouver qu'ici et qui vont devoir adopter des stratégies pour un peu pallier au fait que le milieu est toujours gorgé d'eau et qu'il y a peu d'éléments nutritifs dans le sol.
C'est évidemment une éponge incroyable qui donc toute l'année, naturellement, va pouvoir redistribuer de l'eau.
C'est ça, c'est vraiment voir la tourbière comme une grosse éponge.
Ah ouais.
En hiver, elle va absorber toute l'eau de pluie, notamment qui va tomber, et en été, petit à petit, elle va restituer au milieu cette eau qu'elle aura gardée durant les périodes humides.
Là, nous sommes sur un milieu quand même assez fragile. Et ben, vous avez construit donc, ce petit chemin en bois.
C'est ça, on a construit un petit ponton parce que les tourbières, c'est bien de les préserver, mais c'est bien de les valoriser auprès du public.
Oui.
Et là, on est sur une espèce naturelle sensible qui appartient au département du Finistère et donc qui a pour politique aussi d'ouvrir ces tourbières au public pour qu'on prenne pleinement conscience de leur intérêt au niveau biologique, au niveau biodiversité et également au niveau de la qualité de l'eau.
C'est un potabiliseur naturel, quoi.
C'est ça, ça va filtrer l'eau, ça va dénitrifier l'eau.
Oui.
Et donc ça va nous rendre une eau, déjà quand on n'en a pas, donc en période estivale, ça va nous rendre de l'eau. Et en plus, ça va nous rendre une eau qui est pure.
Alors, votre travail consiste en quoi exactement ?
Alors ici, nous, on est gestionnaire de la tourbière du Mougeot, donc qui appartient au département du Finistère. Et donc, notre travail, c'est de suivre un petit peu ce qui va se passer sur la tourbière, faire du suivi d'espèces végétales, d'espèces animales également, et puis de mettre en place quelques travaux de restauration de ces milieux. Parce que ces milieux, voilà, si on les laisse évoluer comme ça, petit à petit, ils peuvent être amenés à se refermer. Et donc, on fait des chantiers de réouverture, notamment de zones de tours à dons de Moligny.
Ce qu'on appelle les tours à dons, ce sont les buttes que l'on voit.
C'est ça. Et donc ici, vous voyez également la sphagne, qui est vraiment l'élément essentiel de cette tourbière et qui va pouvoir absorber jusqu'à 10 fois son poids en eau. Et c'est cette sphagne qui va former la tourbe, justement.
Quand on parle de plantes carnivores, il ne faut pas s'affoler, on peut mettre le doigt tranquillement.
C'est ça. Donc on a des droséracs, donc c'est un milieu très dur avec peu d'éléments nutritifs dans le sol. Et une des caractéristiques qu'a développé une plante, la droséra, c'est de devenir carnivore. Donc elle ne peut pas vraiment se nourrir via le sol, donc tant pis.
Elle va l'insecte qui passe.
Hop, c'est bon, elle prend l'insecte et elle aura comme ça ses éléments nutritifs.
Stéphanie, on va apprendre un mot nouveau. C'est le mot étrépage.
Voilà, c'est ça. Là, on est face à une zone d'étrépage. En fait, c'est une technique de restauration de milieu naturel. C'est-à-dire qu'on va décaper le sol entre, on va dire, 5 et 15 cm et on va remettre en lumière la banque de graines du sol. Et ce qui fait que des fois, on a des plantes qui ont disparu depuis longtemps, mais qui ont quand même des graines qui sont viables dans cette banque de graines.
Il faut les aider, pour les remonter un peu à la surface. Quoi.
Donc on a notamment décapé un peu tout ce qui était Moligny. On va appauvrir un peu plus le milieu. Et donc on va laisser sortir cette banque de graines. Et on va permettre ainsi d'étudier un peu la potentialité de ce milieu naturel.
Donc c'est ça l'étrépage.
C'est ça l'étrépage, voilà. Ce qui est marrant sur ce type de milieu, justement, on va appauvrir le sol. C'est plus le sol est pauvre en éléments nutritifs, et plus la biodiversité va être riche. Et on pense souvent le contraire, plus c'est riche et plus ça va apporter de la richesse. Et non, justement, un des aspects de l'étrépage, c'est d'appauvrir un peu plus le sol.
Stéphanie, alors, dans ce lieu, on ne la verra pas, mais il y a quand même une jolie petite bestiole à poil qui s'appelle la loutre. Et on est sur un territoire quand même de loutre ici.
Oui, l'Elorne est reconnue pour être un territoire de loutre. Et donc la loutre, elle aime bien aussi se promener un peu dans les tourbières parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont un peu afféodés aux tourbières, notamment les amphibiens. Donc la loutre, des fois, elle peut descendre dans les tourbières et faire un peu un carnage, enfin du moins un bon repas
d'amphibiens.
Et on peut la repérer avec ce qu'on appelle les épreintes.
Voilà, alors les épreintes, en fait, c'est les petites crottes de loutre. Oui. Alors on les reconnaît parce qu'il y a plein d'arêtes de poisson à l'intérieur, oui, et parce qu'elles ont une odeur un peu de miel. Épreintes et empreintes, c'est les deux meilleures façons de reconnaître qu'on est sur le territoire d'une loutre.
Un envol de courlis ici, ça doit être possible?
Ah oui, c'est possible, c'est magnifique. Oui, oui, on est sur des zones potentielles de reproduction de courlis cendrés. Ouais. Alors, il y en a de moins en moins, les courlis. Aujourd'hui, on compte une vingtaine de couples nicheurs dans les monts d'Arrée. En 2006, il y en avait 35. Donc voilà, c'est vraiment un courlis de moins en moins, mais on essaie de le préserver, de préserver aussi des zones propices à sa reproduction, au nourrissage des jeunes.
Stéphanie, pourquoi il s'appelle le courlis?
Justement, il s'appelle courlis par rapport à son cri. On l'entend souvent siffler sur les landes bretonnes et c'est comme ça qu'on le reconnaît. Il fait une sorte de sifflement qui dit courlis. Ouais. Et donc, c'est comme ça aussi que les agriculteurs, bah, des fois, ils l'entendent et ils disent, tiens, c'est quand même assez bizarre. Là. Et donc, quand on leur fait écouter une fois, ils peuvent après nous apporter l'information en disant, bah, justement, je l'ai déjà entendu là. Et nous, on peut aller voir si en effet, il y a un couple qui est en train de nicher. Donc voilà, ce petit cri caractéristique, ça nous aide à pouvoir le repérer plus facilement.
Je l'ai mal entendu, mais allez-y.
Courlis.
Ah ben voilà, très bien. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce territoire?
Les tourbières, ça a vraiment un aspect à la fois mystique, et à la fois c'est tellement riche d'une biodiversité qu'on ne soupçonne pas. Pour beaucoup de gens, bah, c'est juste des zones humides où on va pas aller se promener parce qu'il y a trop d'eau. Alors que finalement, elles sont tellement utiles, elles regorgent tellement de biodiversité que voilà, moi, je trouve ça magique.
Alors dans cette terre de légende, dans cette terre de mystère, de spiritualité diverses et variées, pendant très longtemps, on était en milieu hostile quand on était dans les tourbières et les marais.
Oui, les tourbières, elles avaient mauvaise presse à l'époque. C'était vraiment voilà, des milieux un peu marécageux, il y avait des contes et des légendes dessus.
Oui.
C'était vraiment pas un milieu valorisé. Et donc voilà, et c'est pour ça notamment qu'on les a beaucoup drainées, alors qu'elles ont un intérêt pour l'homme et pour l'eau potable notamment qu'elles nous fournissent. Elles ont un réel intérêt. Et aujourd'hui, on s'en rend compte et aujourd'hui on fait tout pour préserver ces milieux.
Et ce nom des Landes, d'où vient-il?
Alors historiquement, cette rivière s'appelait le Dourdune ou le Dourdu, eau profonde ou eau noire. Et ce nom vient d'un seigneur qui s'appelait Elorn,
oui,
qui, sur ses terres, était victime d'un dragon. Et ce dragon mangeait les habitants de son territoire et puis mangeait aussi sa famille. Oui. Désespéré, le seigneur Elorn s'est jeté dans la rivière. Et ce sont deux chevaliers qui l'ont sorti de l'eau. Et depuis, la rivière porte ce nom d'Elorn.
Eh ben merci à Gwenola Lemaine, à Claire Amil, à Stéphanie Isoard, donc beaucoup de femmes qui sont ingénieures et techniciennes sur ce bassin donc de l'Élorne, aux pêcheurs de l'Élorne et donc à tous. Et puis aussi à un homme que vous ne connaissez pas qui s'appelle Thierry Burlot. Alors pourquoi? Parce qu'il est le président du comité de bassin de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc là, c'est vraiment un très très grand bassin. Hein. Ça part du Mont-Gerbier de Jean pour aller jusqu'en Bretagne, donc c'est assez immense. Qui est aussi conseiller régional parce qu'en fait, il a une vision. Et simplement, il rappelle une chose extrêmement importante, c'est que vous n'avez pas de développement sur un territoire si vous n'avez pas une bonne qualité d'eau. Ça paraît simple, ça paraît évident, mais c'est tellement pas appliqué qu'il faut le rappeler. Et quel que soit les territoires, si vous n'avez pas une bonne qualité d'eau, eh ben vous n'aurez pas de développement. Donc il faut commencer effectivement en pensant à l'eau, et c'est ce que l'on fait, on essaye de le faire un petit peu partout, plutôt que de faire des stations d'épuration dans tous les sens. Eh bien, intéressons-nous là aussi à la prévention. Il nous reste encore un sujet, oui.
Vous avez l'air en pleine forme, là. Gay, entreprenant, dynamique.
C'est au de mon amour, Denis Chessou.
C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases.
Ça, on adore. Merci d'ailleurs aussi à Xavier Pestudier hein, qui a donc réalisé, choisi les musiques de ce reportage avec Camille Blanès aussi, son aide. On va à une autre actualité. Oui, vous avez peut-être regardé vos journaux. Je vais vous parler de l'huile de palme. Cette culture du palmier à huile, c'est une des principales causes de déforestation en Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie et en Malaisie. Donc ça représente quand même plus de 85% de la production mondiale pour ces deux pays. Et vous avez plus de 30% cette fois-ci de la déforestation en Indonésie, qui est causée par l'extension de cette monoculture du palmier à l'huile. Bon, alors les forêts primaires, je vous en parle pas, c'est en miettes. C'est une cata aussi pour les communautés locales qui voient leurs terres accaparées, incendiées pour laisser la place à de gigantesques monocultures de palmiers à huile. Si vous interrogez les orang-outans, ils auront aussi de quoi dire. Et donc, c'est pas du tout une bonne réponse à l'environnement et au climat. Eh non. Et saviez-vous, c'est pour ça qu'il y a eu cette campagne que l'on a vue partir cette semaine, que 75% de l'huile de palme que nous consommons est incorporée dans les carburants que nous trouvons à la pompe. Alors bonjour à vous Sylvain Angeran, vous êtes responsable des campagnes des Amis de la Terre. Comment se fait-ce ?
Bonjour Denis. Ça se fait tout simplement que aujourd'hui, quand vous allez à la pompe, vous avez obligatoirement des biocarburants qui sont mélangés aux carburants fossiles classiques. Et ces biocarburants, en fait, on a très peu d'informations sur ce que c'est. Vous vous souvenez sans doute de toutes les polémiques qu'il y a eu autour du Nutella, la taxe Nutella.
Oui.
Suite à ces polémiques, il y a eu un rapport qui a été commandé à l'époque, c'était par Madame Royal, pour essayer de faire un peu le point, savoir où allait l'huile de palme et ce qu'on en faisait. Et bien ce rapport, il a permis de montrer que 75% de l'huile de palme qu'on consommait passait dans les carburants. Et c'est une tendance qui est en pleine explosion en fait. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui on alerte les pouvoirs publics, parce qu'on peut arrêter ça. C'est le bon moment. L'Europe est en train de réviser sa politique de biocarburant.
Et alors, en ce qui concerne le climat, d'ailleurs aussi, Nicolas Hulot avait pris, on va dire, une position contre cette incorporation.
Quand Nicolas Hulot est arrivé au ministère, nous, c'est le premier dossier qu'on a posé sur la table. Parce que Total est en train de construire une immense bioraffinerie dans le sud de la France et veut utiliser de l'huile de palme. Donc on a demandé à Nicolas Hulot de bloquer ce projet de raffinerie et plus généralement de fermer les vannes qui permettent d'utiliser de l'huile de palme dans les carburants. Donc on était très contents en fait quand, lors du plan climat, Nicolas Hulot a repris publiquement notre demande en expliquant que le gouvernement allait fermer cette fenêtre d'opportunité qui permet d'utiliser de l'huile de palme dans les biocarburants. Mais depuis, bah, c'est une autre histoire.
Alors l'autre histoire, pourquoi ? Parce que d'un côté, on a Total qui est très très lourd, donc ça se passe, cette bioraffinerie serait donc du côté de la Med. On est bien sûr en Provence, plus de 500 000 tonnes, donc c'est la reconversion d'une autre usine pour Total. Et puis de l'autre, on a aussi ce qu'on appelle la réelle politique avec la Malaisie et l'Indonésie.
Oui, tout à fait. Depuis le début de cette campagne, on travaille avec la CGT, qui est le syndicat majoritaire à la Med, parce que nous, notre but, c'est qu'on dit, effectivement, il y a un problème avec les raffineries, en tout cas, on sait qu'on va devoir les reconvertir. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, la solution que propose Total n'est pas la bonne. Dire que l'on va passer du pétrole à l'huile de palme, ça convient ni à la CGT, ni aux Amis de la Terre, ni à personne.
Ni au climat, ni à l'environnement en général.
La Commission européenne a même demandé à un moment à faire des études indépendantes, et ces études montrent que mettre de l'huile de palme dans le réservoir plutôt que du pétrole a un impact jusqu'à 4 fois pire pour le climat.
Je parlais de réel politique, ça c'est très intéressant aussi. Et là on a des ventes d'armes qui sont derrière en ce qui concerne la Malaisie.
Dès l'annonce de Nicolas Hulot avec le plan climat, le lendemain, la presse malaisienne se déchaînait en prenant pour cible Nicolas Hulot. Et derrière, il y a eu une campagne très très forte de pression sur le ministère des Affaires étrangères, sur le ministère des Finances. Le président de la Malaisie a appelé Nicolas Hulot et a fait clairement du chantage économique. C'est-à-dire que la France est en discussion avec la Malaisie pour vendre des rafales et a fait pression en disant, bah, c'est simple, hein, si vous restreignez vos importations d'huile de palme pour les carburants, nous, on prendra pas vos rafales. Et ça, pour nous, c'est vraiment scandaleux, parce qu'à un moment, quelle est la priorité ? C'est de vendre des armes ou d'essayer de protéger les forêts, quoi.
Qu'est-ce que l'on peut faire d'autre maintenant ? Où est-ce que vous en êtes ?
Aujourd'hui, rien n'est joué. Le 16 janvier, le Parlement européen a voté à l'unanimité, à quasi-unanimité, l'interdiction de l'huile de palme dans les carburants d'ici 2021. Donc c'est un très très bon signal. Maintenant, il faut que le Parlement se mette d'accord avec les États membres. Et c'est là que tout va jouer dans les prochains mois, puisque avant l'été, on doit arriver à un accord. Voilà. Et nous, ce qu'on espère, c'est que la France, qui était le champion en juillet, et qui est devenue ces derniers mois, aujourd'hui, le principal pays qui bloque, change sa position. Et qu'on arrive à trouver un compromis qui permette de dire, bah, effectivement, l'huile de palme dans les carburants, de façon générale, il faudrait arrêter les biocarburants. Mais au moins, bloquons les vannes de l'huile de palme, sinon ça va complètement exploser, quoi.
Sylvain Angeran, on vous salue, et peut-être aussi ceux avec qui vous travaillez.
Aujourd'hui, pour faire bouger les lignes, heureusement qu'on a eu Léa Nature qui nous a aidés à faire cette grande campagne de presse que vous pouvez voir toute cette semaine dans les principaux quotidiens et hebdomadaires. Vu que le gouvernement a du mal à nous entendre, qu'on avait un rendez-vous avec Nicolas Hulot qui a été annulé au dernier moment, bon, on espère qu'avec cette campagne de presse, on pourra faire bouger les lignes. Donc merci à Léa Nature et rejoignez-nous nombreux pour faire pression sur le gouvernement.
Et qui a soutenu à dire aussi donc, l'opération du compostage, donc aider, soutenir les associations et les ONG. ONG. Merci à Camille Blanès, notre assistante, à Xavier Pestudia, notre réalisateur. Muriel Pérez a choisi les disques et Anne Gouzon a nourri les sites. Que vous souhaitez de plus? Eh ben, un excellent week-end.